Que le Seigneur puisse bénir tous qui sont en ligne, connectés et aussi ce matin, nous voulons chanter d'abord quelques chœurs. Nous commençons avec le numéro 14. Encore les salutations du frère Jean-Claude de Durban. Le numéro 14. Amen. Ça, nous le demandons au Seigneur que vraiment la pluie de l'arrière-saison tombe sur nous tous. J'ai encore une citation du frère Manassé de Haïti. Ensuite, nous voulons entonner quelques cantiques avant que le frère Afra Borg nous lise la parole d'introduction et le frère Schmitt remette la réunion au Seigneur dans la prière. Chantons le premier chœur, il vient de l'Est et de l'Ouest. À la fin.
Thank you.
Je l'aime, je l'aime. Je voudrais voir celui qui mourut. Encore le numéro 6, son de mon cœur. Merci. Amen. Nous pouvons que dire amen à ça. Que l'Esprit de Dieu, encore ce matin, puisse inonder notre cœur. Qu'il puisse être agissant. Nous sommes reconnaissants de ce que ce matin, nous pouvons de nouveau être ici, rassemblés. Nous sommes reconnaissants pour hier soir, pour toutes les paroles de vie que nous avons reçues et pu entendre, pour la bénédiction, pour tout ce que le Seigneur nous a accordé. Et nous sommes venus ce matin pour expérimenter nouvellement le Seigneur, pour écouter sa parole, et pour recevoir ce qu'il nous a préparé. J'étais impressionné et je le suis de nouveau, toujours, quand ici les souhaits de bénédiction de nos frères et sœurs du monde entier ici, dans ces réunions, sont envoyés. Est-ce que vous vous réjouissez de chaque souhait de bénédiction qui nous est envoyé? Je suis très reconnaissant à Dieu de ce que nous sommes en relation avec beaucoup de frères et de sœurs dans le monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous saluons d'ici tous ceux qui par l'Internet ce matin, ensemble avec nous, écouteront la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Que son peuple soit béni ce dimanche matin. Avant que le frère Schmitt prie, je vous lis une parole de l'Écriture dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 8, et parlons 4, verset 18. Les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Gloire à Dieu. Est-ce que cela n'est pas notre témoignage à tous? Est-ce que nous pouvons arrêter de parler de ce que nous avons vu et entendu, de ce que nous avons dans ce dernier jour expérimenté? Est-ce que nous pouvons laisser de parler de son prophète, de parler du dernier message que nous avons reçu pour toutes les conduites et les directives divines? C'est impossible de ne pas en parler. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons entendre toutes ces choses, voir toutes ces choses, vivre toutes ces choses. Il s'agit de Jean, il s'agit de Jean et de Pierre. Il s'agissait de la guérison de quelqu'un qui était né avec un handicap, qui était né avec un handicap paralysé et qui a été guéri au nom de Jésus-Christ. Et ils devaient répondre. Et quand ils sont revenus dans l'église et qu'ils ont rendu témoignage, nous lisons au verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et prièrent. Bien-aimés frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu puisse produire ça, que quand nous allons nous lever pour la prière, que nous soyons, que nous puissions unis, élever à Dieu notre voix ensemble. C'était comme ça au commencement, il y avait une union, il y avait un commun accord. Le verset 31. Quand ils eurent ainsi prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, sans craindre. Est-ce que nous regardons à ça? Que cela aussi parmi nous se répète. Lisons encore le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. et qu'une âme. Ça, c'est mon souhait. Car c'est notre souhait à tous. Que tous, tous ceux qui sont croyants, tous ceux qui ont cru, même s'ils sont ici ou bien qu'ils sont connectés ou bien dans le monde entier quelque part. Et la Bible dit que tous les croyants étaient un cœur et une âme. Et que ensemble nous puissions élever à Dieu notre voix. Dans la prière, d'un commun accord, uni. Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que nous voulons vivre ce qui est écrit au verset 31? Et tous furent remplis du Saint-Esprit. Tous, sans exception. Tous ceux qui étaient présents. Bien, frères et sœurs. Pour Dieu, tout est possible. Nous vivons encore dans les dernières heures. Et le Seigneur peut le faire. Encore ce matin, déjà. Pour Dieu, rien n'est impossible. Que Dieu nous bénisse. Nous nous levons et pour ensemble prier. Père au ciel, nous venons ensemble devant ta face, ô Dieu de grâce et de vérité. Toi qui as tout créé, et ta parole dit tout ce qui se meut et vit, tu l'as créé. Et c'est une preuve que tu es le grand créateur qui a créé le ciel et la terre. Et ainsi, tu nous as aussi créés. Ainsi, accorde-nous ta grâce encore ce matin pour que nous soyons, comme c'est écrit ici, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme qui avait cru. Ô Dieu, fais-nous grâce. Que tu puisses créer parmi ton peuple une union, pas une union humaine, mais l'union de ton esprit par ton esprit dans ton Église. Fais grâce, Seigneur, que vraiment nous ayons cru. Oh, que tous ceux qui sont présents soient bénis, et tous ceux qui sont aussi connectés, comme déjà mentionné, oh Dieu, qui écoutent, ou bien alors qui suivent. Oh mon Dieu, accorde-nous cette union, que nous soyons un seul cœur, une seule âme, un même sentiment, un même but devant les yeux, et que nous puissions atteindre le but que tu nous as placé devant les yeux. Mon Dieu, fais-nous grâce. Bénis encore les lèvres par lesquelles tu peux parler et tu vas parler. Nous te le demandons dans ton précieux nom de Jésus. Car Seigneur au ciel, nous sommes venus, pas pour écouter des hommes, mais pour écouter ta parole, ô Dieu. Bénis ta parole, bénis tous ceux qui sont présents, mon Dieu, petit et grand, et partout, Seigneur au ciel, nous te remercions pour ta grâce, et te remercions aussi déjà pour la réunion richement bénie, les heures richement bénies hier soir encore. Ce matin, nous te demandons ta grâce. Amen. Amen. Nous restons debout et nous demandons aux parents qui veulent présenter leurs enfants, bénir, laisser bénir leurs enfants qui puissent venir devant et qui proposent un cœur que nous allons entonner. Avons-nous un frère de la Tchèque ici? Les frères et sœurs parlent le Tchèque. Pour présenter l'enfant. Dieu Tout-Puissant, tu as donné à nos bien-aimés frères et sœurs un enfant en bonne santé. Nous te l'apportons, nous te consacrons cet enfant. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant se repose sur l'enfant, sur toute la famille. Soyez bénis de la bénédiction de Dieu pour ce temps et pour l'éternité dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bien, c'est bien. Ça va, ça va. Avons-nous encore quelqu'un? Vous parlez aussi l'allemand? Non. Frère Ziegler, viens s'il te plaît. Et nous prions tous avec lui.
Dumnezeul nostru atotputernic, îți mulțumim pentru această familie scumpă, cărora ai dăruit această fetiță. Te rugăm ca tu să binecuvântezi toată familia în numele tău, cel scump Iisus Hristos. Te rog, binecuvântează această fetiță în numele tău. Doamne, Bert, ca și binecuvântează toată familia, Doamne, ca pacea ta să fie asupra lor și ei să vină la credință, Doamne. Dăruiește credință deplină și descoperirea cuvântului tău în numele tău cel scump, Iisus Hristos. Amin.
Sois béni et consacré à Dieu. Amen, amen. En anglais. Seigneur Dieu, nous prions au nom
for this child. We dedicate this child to you in the precious name of Jesus Christ, and we ask God's blessings for the whole family. Be dedicated and be blessed in the precious name of Jesus Christ, our Lord. Amen.
Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous chantons encore, nous donnons l'honneur qu'à Jésus. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Loué soit le Seigneur, notre Dieu, de ce que de loin et de près, oui, de toute l'Europe et de la moitié du monde, beaucoup de régions du monde, nous venons pour écouter la parole du Seigneur. Le frère Tati m'a écrit quelques frères que nous allons encore nommer de nom, et particulièrement le frère Jovava du Zimbabwe. Imaginez-vous ce qui est dit ici est retransmis dans tout le pays par la télévision. Tout le Zimbabwe aujourd'hui est en direct et suit ce qui est prêché ici au nom du Seigneur. Et un deuxième point est notre frère Michael traduit là-bas. Et Dieu a accordé tant de grâces. Vous connaissez tous le témoignage. Un grand-père qui, en 1954, à Bombay, en Inde, avait entendu Frère Branham prêcher, mais de Lahore au Pakistan, venait de Lahore au Pakistan. Et alors que j'étais venu au Pakistan et que cet homme-là, qui était responsable d'une station de télévision, m'a dit, mais je dois l'écouter, cet homme, car il a connu l'homme de Dieu personnellement, William Branham. Et pour raccourcir le témoignage, et maintenant, cet homme a fait en sorte que nos émissions soient plus de 52 stations de télévision dans le monde entier. Et maintenant, en relation avec le programme d'évangélisation des évangélistes internationaux, Dieu a vraiment pris soin de tout et nous lui faisons confiance qu'il appellera encore les derniers. Et nous voulons ensuite à tous les frères dans le ministère qui puissent se lever, tous les frères qui prêchent la parole de Dieu. Et le frère Tati m'a nommé, le frère Didier, le frère Forestieri, le frère Gerlando, le frère Maja, le frère Bobé, le frère Ellis. Des salutations du frère André de Montréal et encore les salutations du frère John de Bucarest. Et il y a encore le nom d'un frère du Bénin et aussi de Chicago. Bien-aimés frères, vous tous qui prêchez la parole de Dieu, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous, nous voulons de tout notre cœur vous souhaiter les riches bénédictions de Dieu. Tous les frères dans les différents pays, que Dieu le Seigneur vous bénisse de la plénitude de sa grâce. Notre bien-aimé frère Étienne Genton traduit, mais il a aussi part à la prédication. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu. Et en relation avec cela, j'ai une demande. Hier, il y a un frère qui, en langue espagnole, donc qui maîtrise la langue espagnole, et il a parlé d'une vision ou bien alors d'un songe qu'il avait eu et il avait vu le blé dans un sac et il voulait savoir qu'est-ce que cela a signifié. Mais bien-aimés frères, je vous le dis au nom du Seigneur, un songe est un songe. Et dans la Bible allemande, il est écrit, pas seulement vous allez avoir des songes, mais vous allez avoir des révélations dans les songes. Donc, si dans un songe, il n'y a pas une instruction de Dieu, ce que nous rêvons, s'il n'y a pas une instruction, il n'y a pas un ordre, il n'y a pas une parole de Dieu, arrêtez de songer, de rêver, mais revenez à la réalité. N'interprétez pas un songe, mais prêchez la parole du Seigneur. Que Dieu puisse vous bénir. Vous pouvez vous asseoir. Oui, nous sommes reconnaissants au Seigneur aussi, par exemple, ce que signifie le, en ce qui concerne le blé. Là, je pense à cet énorme champ de blé. C'était jaune comme de l'or, plus que mûr, courbé par la chaleur du soleil. Et tout s'était courbé. Et ça, je vais vous dire, dans cette vision, directement par inspiration, j'ai constaté que il n'y avait pas d'ivraie dans le champ. Pas un seul ivraie. Dans tout le champ, il n'y avait aucun ivraie avant que la, dernière moisson soit récoltée. Il fallait que tout ce qui est ivre soit ôté. Et c'est pour cette raison que la vraie et pure et originale parole, prédication de la parole de Dieu est importante. Pas d'interprétation, rien de nos pensées humaines, mais la sainte et pure parole de Dieu. Et c'est ainsi que tel que notre Seigneur, selon Jean 12, était le grain de blé qui est tombé à terre, en terre et qui est mort et qui a porté beaucoup de fruits par sa mort, par ses souffrances et par sa mort, a produit beaucoup de fruits. C'est ainsi que nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes le blé de Dieu qui est rassemblé dans le grenier. Et bien, mes frères et sœurs, les grains de blé qui sont rassemblés dans le grenier. Et laissez-moi vous lire cela dans Matthieu 3, car c'est un contexte très particulier que nous trouvons ici. Dans Matthieu, le chapitre 3, à partir du verset 11 et 12. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. S'il vous plaît, écoutez bien ce qui suit au prochain verset. Il a son vent à la main. Il nettoyera son nerf et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ici, nous avons le troupeau baptisé du Saint-Esprit, le troupeau racheté par le sang baptisé du Saint-Esprit qui, lors du retour de Jésus-Christ, recevront la, ont reçu la pluie de l'arrière-saison. Et vous savez, le temps est très avancé, mais le Seigneur attend que les derniers soient appelés à sortir, et quand le nombre sera plein, alors le Seigneur reviendra. Seulement encore tout rapidement, nous avons, n'est-ce pas, hier soir déjà mentionné Israël. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons voir, comment est-ce que les prophéties bibliques devant nos yeux s'accomplissent. Que ce soit Ésaïe 14, encore une fois, je choisirai Israël. Que ce soit Jérémie 31, que ce soit Ézéchiel 36 et tous les citations des prophètes dans l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 2, Dieu le Seigneur a tout prédit et nous pouvons par la grâce de Dieu le voir, par sa grâce le voir, et nous pouvons dire aujourd'hui cette écriture est accomplie devant nos yeux. Et j'ai lu tout à l'heure, c'est la chose la plus grave qui a pu se passer sur terre, les 6 millions de Juifs. Et tout retourne au 9 novembre 38, alors que cet homme-là a laissé déployer son pouvoir et toutes les synagogues juives en Allemagne, en Autriche, il les a laissées brûler ou bien détruite. Le 9 novembre 1938, cela avait commencé, et ensuite en 1941, l'Holocauste, la Shoah a commencé. Et bien, frères et sœurs, nous souhaitons au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, de tout notre cœur et de toute notre âme, la bénédiction de Dieu. Et que cela soit mentionné, alors que j'entendais que le Vatican et l'Arabie Saoudite ont fait un contrat pour que les églises en Arabie Saoudite puissent être bâties. Ça, je l'ai comme ça pris en connaissance. Mais quand il fut dit que l'Arabie Saoudite est en train de reconnaître Israël en tant qu'État, cela m'a vraiment réjoui de tout mon cœur. Il faut qu'il y ait des ponts qui soient bâtis pour que la procédure de paix, n'est-ce pas, prenne son cours. Je crois que Trump a mis tous ses efforts pour pouvoir produire tout cela, et les autres vont suivre, et rapidement ce sera déjà de l'histoire. Mais avant que cela se passe avec Israël, ça, le frère Branham l'a très bien dit clairement, cela va se passer en même temps, c'est-à-dire l'enlèvement et le contrat sur 7 ans auront lieu à peu près au même moment, au même temps. Et ça, ne vous attendez pas à voir cela. Toutes les préparations, nous allons les voir, nous allons les vivre, mais Dieu lui-même sait, lui seul sait ce qui va d'abord arriver. Sûrement d'abord l'enlèvement, et ensuite le contrat de paix, et ensuite le ministère des deux prophètes, et ensuite la brisure du contrat, et ensuite les derniers 3 ans et demi après la brisure. Mais nous n'avons pas besoin d'entrer dans ces détails de ces développements. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu. Il a, avant même la fondation du monde, conçu ce dessein du salut, et il a laissé prédire dans sa parole, et peut-être seulement encore une seule chose ici, en ce qui concerne ce grand bâtiment qui doit être bâti à Berlin pour 74 millions d'euros. D'abord, nous voyons le symbole avec celui de l'islam, donc la lune à moitié, ensuite la croix avec symbolisant le christianisme, et ensuite l'étoile concernant symbolisant le judaïsme. Et ensuite, tout cela devrait, n'est-ce pas, symboliser le seul. Mais il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et je voudrais peut-être encore mentionner cela. Ça va faire à peu près 24 ans, alors que je prêchais en Indonésie. Vous connaissez, n'est-ce pas, tous mon témoignage. Et l'homme qui traduisait, docteur tel et tel, traduisait. Et à chaque fois, quand je disais Dieu, ou bien je lisais Dieu, lui, il a lu, ou bien il a dit Allah. Et toujours Allah, Allah, jusqu'à que j'en avais assez. Et je lui ai dit, écoute, stop. Dès maintenant, je te demande de me traduire par Elohim. Elohim, Dieu par Elohim. Directement devant toute la congrégation, je l'ai stoppé. Et je lui ai dit, s'il te plaît, maintenant tu ne dis plus Allah, tu dis Elohim. Et cela s'est passé, que nous avons même reçu la possibilité de corriger cela dans leur Bible en Indonésie. Et dans une autre contrée, et dans la nouvelle édition de leur Bible en Indonésie et Malaisie, en Malaisie, il n'y a plus une unique fois le mot Allah. Mais ils ont corrigé cela, ils ont sorti une nouvelle édition avec le mot Elohim dans leur langue. Et la Bible a pu être de nouveau imprimée. Le Seigneur est fidèle. Par un contact que nous avons eu à l'université là-bas. Et Dieu vraiment a pris soin pour tout cela. Et nous sommes encore aujourd'hui très reconnaissants de tout notre cœur au Seigneur. En ce qui concerne, bien mes frères et sœurs, dans ce temps, bien mes frères et sœurs, hier soir, nous avons déjà dit qu'il s'agit vraiment de ce que nous puissions avoir du respect devant Dieu et devant ce qu'il a dit et que nous puissions ainsi recevoir, pour que nous puissions recevoir la parole révélée et être dans la volonté de Dieu. Encore aujourd'hui, j'ai lu dans Jérémie chapitre 8, les scribes et pharisiens pensaient connaître la parole et ensuite il est écrit qu'ils l'ont fait mentir. Peut-être que je devrais vous lire cela. Ça ne suffit pas seulement de lire les Écritures. On a besoin de la révélation du Dieu Tout-Puissant lui-même pour ne pas tomber dans ses propres interprétations et infiltrer ses propres interprétations, penser dans la parole, mais de tout notre cœur croire et recevoir révélé ce que le Seigneur vraiment dans sa parole a dit. Ici, dans Jérémie le chapitre 8, nous lisons à partir du verset 7. Jérémie chapitre 8 à partir du verset 7. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais, mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. La cigogne, tous les oiseaux du ciel connaissent leur temps, leur saison, observent leur temps. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Le verset 8. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? Nous sommes sages. La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien. Et maintenant, mais. C'est bien. En vain que c'est mise à l'œuvre. La plume mensongère des scribes. C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre. C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. En vain qu'ils aient été en possession de la loi. Qu'est-ce que nous avons dit hier et avons répété parfois? La Torah, l'Ancien Testament, tous les scribes, tous les psaumes qui mentionnent, se réfèrent au Seigneur, tous, n'est-ce pas? Et les écritures des prophètes et les psaumes et la loi étaient entre les mains des scribes et pharisiens. Et tous ces 109 prophéties s'étaient accomplies qui étaient directement en relation avec la rédemption. Et dans l'Ancien Testament avait été prédit, mais la plume mensongère des scribes s'est mis en vain à l'œuvre. Ils ont renversé tout sur leur tête, sur sa tête, avec leurs interprétations, et ainsi n'ont pas reconnu le jour de grâce de la visitation divine. Et ici est en allemand le mot mais. Mais. Vous êtes, c'est bien que vous soyez en possession de la loi, mais c'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre. La plume mensongère des scribes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avec toutes les interprétations, avec tous les commentaires, et comme hier, nous l'avons aussi dit et lu, l'ordre divin est renversé sur la tête. Il ne parle plus de homme et femme, de mari et femme, mais il cherche un mot pour inclure tout. Et celui qui lit dans Romains le premier chapitre, dans la Bible, où Paul, en tant que serviteur de Dieu, se présente. Et là, il ne parle pas seulement, ne retourne pas seulement jusqu'au jour de Noé et jour de Lot, mais il écrit dans Romains chapitre 1 que même les femmes ont quitté leur domaine naturel et ont quitté, n'est-ce pas, les relations normales avec l'homme. Et les hommes ont quitté la relation normale avec la femme et ont brûlé l'un pour l'autre, homme pour homme, femme pour femme. Dans Romains chapitre 1, l'homme de Dieu a dû écrire déjà de son temps ces choses. Et quand nous regardons dans notre époque, bien les frères et sœurs, alors là, il y a même un pasteur avec sa robe et qui impose ses mains à deux femmes et qui les bénit pour les maris, pour les bénir comme couple. Et ensuite, il y a une pastoresse aussi avec sa robe, et qui bénit deux pasteurs qui se marient. Mon Dieu, mais où est-ce que nous sommes arrivés? L'ordre divin dans le domaine naturel et surnaturel, tout est renversé sur la tête, est perverti. Ils ont rejeté l'ordre divin et la plume mensongère des scribes dans le 20e et le 21e siècle a fait en sorte que tous se sont élevés au-dessus de la parole. Et cela à cause de la plume mensongère des scribes. Et ils disent que la Bible est un vieux livre. Ce n'est plus actuel. On ne peut plus vivre selon la Bible. Quoi? La Bible est le livre le plus actuel qui existe. Tout, et encore une fois, tout a été écrit ici dans la Bible. Et aussi encore le 9e verset de Jérémie 9, le 9e verset. Dans Jérémie chapitre 8, verset 9. Les sages sont confondus. Ils sont consternés. Ils sont pris. Ils sont emprisonnés. Ils sont pris. Où? Dans leurs propres interprétations. Ils se voient eux-mêmes pris dans leurs propres interprétations. Oui. Voici. Ils ont méprisé la parole de l'Éternel. En allemand, ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils encore? Et quelle sagesse ont-ils alors? Oui, la sagesse humaine. Qu'est-ce que nous voulons faire avec la sagesse humaine? Non, que Dieu puisse vraiment laisser savoir à tous ceux qui écoutent aussi, à ceux qui critiquent, que chaque homme doit... Nous respectons chaque homme tel qu'il est. Mais dans la prédication, dans l'église du Dieu vivant, il faut que tout soit prêché de manière biblique et que tous ceux qui sont de Dieu vont se soumettre à l'ordre divin dans le domaine naturel et spirituel. Dans ces derniers temps, cette pensée m'occupe et m'occupe beaucoup. Cette pensée que frère Branham a mentionnée en insistant dans la prédication de l'absolu. Et toujours de nouveau, il a dit que chaque parole de Dieu est un absolu. Est absolu. Est un infini. Et rien ne peut être changé. Est chaque parole de Dieu est un absolu. Et bien mes frères et sœurs, si de tout notre cœur nous recevons cet absolu, sans résister. Si le Seigneur, notre Dieu, de cette manière parle, peut parler à nous de manière directe et que nous puissions comprendre que ce n'est pas le prophète ou bien le prédicateur, mais que c'est Dieu maintenant, par sa parole, qui parle avec nous. Et que nous ayons le respect devant la parole de Dieu, que ce soit homme ou femme. Si nous sommes enfants de Dieu par la grâce de Dieu, donc est valable pour nous la parole de Dieu, que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Tout est vraiment ordonné dans les Écritures. Mais ce qui me touche encore, bien les frères et sœurs, c'est que le Seigneur est montré de plusieurs manières, en tant que fils de Dieu, en tant que fils de l'homme, en tant que souverain sacrificateur, en tant que médiateur, en tant qu'avocat, en tant que le lion de la tribu de Juda. Mais en relation avec le message divin et que le salut des Juifs passera aux nations. Et là, notre Seigneur est montré en tant que serviteur. Et si nous suivons le mot serviteur, peut-être d'Ésaïe, Ésaïe 42, seulement pour que vous puissiez savoir à quoi est-ce que je veux venir et ce que je veux insister, dire en insistant, que tout ce que nous lisons dans l'Écriture et tout ce que nous lisons, c'est dans un contexte bien précis. On ne peut pas déplacer ce contexte, sortir un verset de son contexte. Et ici, dans Ésaïe, le chapitre 42, il est écrit au premier verset, « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Pour qu'il puisse annoncer la justice aux nations, pour qu'il puisse aux nations porter la justice. Et ensuite, dans Ésaïe 49, au verset 6, il est écrit, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Juda de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit porté jusqu'aux extrémités de la terre. Simplement merveilleux. Dans ce contexte-là, où il est parlé de ce que son salut soit, donc par son nation, il est désigné en tant que serviteur. C'est-à-dire qu'il agit mandaté. Tel que notre Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et son chemin était le chemin de l'obéissance. Et ça, c'est aussi notre chemin. Il est allé au Jourdain. Il s'est laissé baptiser. Et il a dit, il nous appartient d'accomplir toute justice. Et quand il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendue sur lui. Et de cette nuée surnaturelle, la voix a retenti. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Bien-aimés frères et sœurs, que ce soit fils de Dieu ou bien fils de l'homme, que ce soit serviteur, tout est dans un contexte bien précis, dans une relation bien précise. En tant que fils de l'homme, il était le prophète. Et exact, à peu près, presque comme le prophète Ézéchiel, au moins 48 fois, Ézéchiel avait été désigné de fils de l'homme. C'est ainsi que notre Seigneur a été désigné aussi fils de l'homme dans les Saintes Écritures. En tant que fils de l'homme, il était prophète et il pouvait dire, je fais ce qui m'est montré et révélé. Mais ici, cela est devenu tant important pour moi, si important pour moi. Mais bien, frères et sœurs, quand nous pensons à cela, Moïse était un serviteur du Seigneur. David était un serviteur du Seigneur. Et les versets que le frère Branham, toujours de nouveau, a mentionné, Dieu ne fait rien sans avoir premièrement révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et ensuite, notre Seigneur est désigné en tant que serviteur. Et comme c'est écrit dans Jude, il a apparu comme un homme. Il a voulu dire Philippe sûrement. Et il a apparu pour, dans ce corps de chair, accomplir la rédemption. Et nous devons toujours de nouveau dire que de tout notre cœur, nous croyons comme le dit et ce que dit les Écritures. Ici, dans Philippe, il est écrit, Philippe, chapitre 2, Philippe, chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant. Existant en forme de Dieu. Il était l'image visible du Dieu invisible qui possédait la forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Non, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même comme un vrai homme. Il a apparu comme un vrai homme. Combien de fois nous avons eu à le dire ici? Parce que le péché original a eu lieu dans un corps de chair et de sang. Par l'engendrement, par la séduction dans le jardin d'Éden. C'est pour cette raison qu'il fallait que cela s'accomplisse. Voici mon fils bien-aimé. Aujourd'hui, je t'ai aujourd'hui engendré. L'engendrement par le Saint-Esprit était nécessaire pour briser la tête du diable. Et c'était nécessaire que ici, dans un corps de chair, la rédemption pour nous qui sommes dans un corps de chair et de sang ait lieu. Et c'est ainsi qu'elle a eu lieu dans un corps de chair. La rédemption a eu lieu dans un corps de chair et de sang. Et c'est ainsi que Jésus a été enseveli dans un corps de chair mortel, mais il a reçu un corps de résurrection. Et c'est ainsi que cela aura lieu aussi avec nous. Semé sera un corps terrestre, un corps mortel, mais ressuscité sera un corps incorruptible. Et mes bien frères et sœurs, de quoi il s'agit pour nous, pour moi ici, je lis encore le verset 4 dans Philippiens 2. Lisons encore le verset 8, pardon. Le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, nous pourrions continuer à lire. Et nous faisons tous bien, bien nos frères et sœurs. Si nous relisons aussi les versets bibliques dans la prière jusqu'à la fin à la maison pour voir, pour bien mieux comprendre les contextes. Mais allons à ces deux versets bibliques importants dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, notre Seigneur s'est référé à la parole précieuse de Ésaïe chapitre 42 et aussi de Ésaïe chapitre 49. Ici, dans Matthieu le chapitre 12, nous lisons Matthieu chapitre 12, oui, les meilleurs versets nous sont redonnés ici. Lisons les versets 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole. Matthieu 12, verset 38. Et dire, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Oui. Mais pour nous, frères et sœurs, nous lisons à partir du verset 46. Pas seulement voir des miracles, mais... Alors qu'il parlait encore, le verset 46, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Et tous nous savons quelle réponse notre Seigneur, par sa grâce, a donnée. Par grâce à donner. Au verset 49 et 50, ici il est écrit, puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici mon père et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Simplement merveilleux, bien les frères et sœurs, que le Seigneur a accordé tant de grâce pour que tous ceux qui autrefois, alors que notre Seigneur était sur cette terre, tous ceux qui avaient entendu le message divin et l'avaient reçu dans la foi. Oui, qu'est-ce qui s'était passé avec eux? Ils ont, par la grâce de Dieu, vécu ce qui s'était passé autrefois. Et ici, ils ont pu vivre. Et ici, particulièrement au verset sur lequel je voulais venir, en fait, c'est-à-dire à partir du verset 17 dans Matthieu 12. Matthieu 12, verset 17, il est écrit ici, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Aux nations. Encore le verset 19 jusqu'au verset 21. Il ne contestera point il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point un conduit courbé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations. Et encore aujourd'hui, bien frères et sœurs, il n'éteindra point le lumignon qui fume, la mèche qui fume, qui est en train de s'éteindre. Il sera avec nous et il ne brisera pas un conduit qui est courbé jusqu'à que la victoire soit manifestée dans l'Église et la sagesse multiple de Dieu, comme c'est écrit ici aussi. Cela m'occupe beaucoup de ce que notre Seigneur et Rédempteur n'est pas seulement pour Israël, mais qu'il bénira Israël et toutes les nations comme il a promis à Abraham. Et c'est ainsi, tel que c'est écrit ici au verset 19, il ne contestera point, il ne disputera point, contestera point, contesté. Il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues et il ne brisera point le conduit courbé, le conduit et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Et il a été fait lumière des nations. D'abord, la victoire de Dieu dans l'Église de tous les peuples, dans tous les peuples, les langues et les nations, sera manifestée. La sagesse multiple, la victoire de Dieu. Et ensuite, le Seigneur se révélera au peuple d'Israël. C'est une promesse puissante et c'est un absolu. Il ne se fatiguera pas jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice sur la terre. Fait triompher la justice. Et nous avons la grâce de vivre dans ces jours où le triomphe de Dieu sera manifesté devant toutes les puissances des ténèbres et toutes les puissances des ténèbres devront se retirer. Et toutes les interprétations et tout ce qui n'est pas un absolu devra aussi disparaître. Répétons-le encore. Seulement chaque parole de Dieu est un absolu. Aucune interprétation, mais la parole de Dieu. Parfois, on me demande, mais pourquoi est-ce que je ne prêche pas sur les sept tonnerres, sur la tente de mission et tout ça. Non, je ne le peux pas. Je ne peux que prêcher ce qui est écrit dans la Bible. Et il faut aussi que cela soit dit, bien-aimés frères et sœurs, tout ce qui appartenait au ministère de frère Branham s'est accompli. Et le passé pour nous, mais Dieu lui a fait en sorte que toutes ses prédications ont été enregistrées. Et imaginez-vous un peu, déjà en 1946, ses prédications pouvaient être enregistrées sur des bandes magnétiques. Et nous avons reçu tous les 1200 prédications de frère Branham. Et c'était l'homme de Dieu qui, le 3 décembre 1962, me disait que la nourriture que tu dois emmagasiner est la parole promise pour ce temps. Et tous nous savons que la parole promise est justement est manifestée dans les enfants de la promesse. Et nous ne croyons pas quelque chose de quelconque. Nous ne croyons pas n'importe quoi. Nous croyons comme le dit exactement les Écritures. Et nous croyons que le Seigneur achèvera son œuvre avec triomphe. Oh, mort, où est ton aiguillon? Oh, enfer, où est ta victoire? Gloire à Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais est-ce que vous remarquez comme c'est important que ici, notre bien-aimé Seigneur soit désigné en tant que Seigneur, en tant que serviteur, et ici en relation avec la lumière et le salut de Dieu qui passe aux nations. Dans la Bible, là, il est désigné en tant que serviteur dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Oh Dieu, depuis le commencement, dans son salut du salut, dans son plan du salut, nous a inclus et nous pouvons être reconnaissants de ce que nous avons reconnu le jour et l'heure de la visitation divine de Dieu. Et encore, bien mes frères et sœurs, au verset 21, il est écrit de Matthieu 12. Et les nations espéreront en son nom. Les nations espéreront en son nom. Espéreront. Alléluia. Espérons en son nom, le nom qui nous a été révélé, en son nom, dans lequel tout le salut, toute la puissance de Dieu, de la rédemption, est tout. Nous l'avons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme nous pouvons être reconnaissants, ici, tel que nous l'avons lu, encore une fois, le verset 21. Et les nations, oh bien-aimés frères et sœurs, espéreront en son nom, bien-aimés frères et sœurs, la révélation de Jésus-Christ, la révélation du nom de la rédemption. En son nom est contenu le salut. C'est en son nom, que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants au Dieu Tout-Puissant et que nous lui disons merci, qui déjà avait dit à Moïse, là-bas où je ferai habiter mon nom, où je mettrai mon nom, c'est là que je viendrai à toi et que je parlerai avec toi. Et je me suis aujourd'hui noté cela. La nuée surnaturelle, la présence directe de Dieu est descendue seulement dans le lieu plus saint, le lieu très saint où l'arche de l'Alliance était. C'est là que la nuée surnaturelle, la gloire de Dieu descendait. Et c'est de là-bas, c'est de l'arche de l'Alliance, c'est de ce lieu où la parole de Dieu avait été placée. C'est de là que sa voix retentissait et s'adressait à Moïse. Bien-aimés frères et sœurs, ça, cela s'est répété dans notre temps aussi. Pas seulement que la parole a été nouvellement placée sur le chandelier, mais ce qui est important pour nous en tant qu'Église du Nouveau Testament, par la grâce de Dieu, tout ce qui était déterminé à nous en tant qu'Église du Nouveau Testament et qui s'est passé aussi avec nous et qui aussi se passera avec nous. Bien, mes frères et sœurs, recevez cela dans votre cœur. Nous ne sommes pas comme ça entrés parce que nous le voulons. Vous le voulions. Mais c'est parce que Dieu l'a voulu comme ça avant même la fondation du monde, l'a déterminé ainsi pour être la lumière des nations, le salut des nations. C'est ainsi qu'il fallait que aussi dans notre temps, le plein salut, le plein évangile, soit prêché à tous les peuples, les langues et les nations. Encore ce verset de Paul, du Acte des Apôtres, le chapitre 13. Je ne sais pas comment est-ce que vous ressentez, mais pour moi, ces choses sont précieuses, quelque chose de précieux. Quand le plan du salut de notre Dieu avec le peuple d'Israël, avec l'Église des nations, par les Écritures, est montré. Et imaginez-vous, frères et sœurs, dans Matthieu 10, notre Seigneur a dit à ses disciples, les apôtres, n'allez pas aux nations, allez seulement aux brebis perdues d'Israël Dieu a commencé avec Israël, mais ensuite le temps est arrivé où l'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres, au chapitre 13, a dû dire les choses suivantes, dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, à partir du verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Ils n'ont pas seulement contredit, ils ne se sont pas seulement opposés, mais ils ont injurié et contredit ce qu'ils prêchaient. Et ensuite, au verset 46, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement, vous Juifs, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Simplement merveilleux. Alors, voici, nous nous tournons vers les païens. Maintenant, la parole de Dieu est répétée du prophète Ésaïe, au verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Alléluia. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'était comme ça au commencement, et c'est comme ça encore aujourd'hui. Je pense, alors que frère Branham, à Cairo, avait fait un escale. Il avait bien voulu aller en Israël et il est sorti du bâtiment de l'aéroport dans une pièce et il a prié et il a dit, et c'est ainsi qu'il a reçu l'ordre. Ceci n'est pas le temps. Ne va pas en Israël. Et le temps pour Israël viendra. Bien, frères et sœurs, aussi certain que Dieu, lui, l'a déterminé dans sa parole. Mais insistons encore de quoi il s'agit ici. Notre Seigneur et Rédempteur vient à nous, apparaît comme un vrai homme, est circoncis au huitième jour. Tous, vous savez pourquoi? Et pourquoi? Pour quelle raison? Parce que le péché original a eu lieu par engendrement. Il fallait que la circoncision ait lieu. Il fallait, c'était obligé. Il fallait que la circoncision ait lieu dans la chair. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous allons dans tout le dessein du salut de notre Dieu, Dieu n'a pas sauté des choses, mais il est allé dans les détails. Il n'a pas sauté des choses. Ce que Satan a produit comme dégâts, il n'a pas surpassé cela. Il a réparé cela dans tous les détails. Et c'est peut-être raison que lui-même, dans un corps de chair, il a apparu. Encore quelques paroles en ce qui concerne le dernier message. Nous avons, n'est-ce pas, hier soir déjà encore eu à le dire. Et je l'ai ici dans la version anglaise. Vous pouvez voir ce que Frère Branham a dit est long. Et vous pouvez voir comment est-ce que ce qui a été altéré, falsifié est court. Et en fait, ce sont des amis qui étaient très proches de Frère Branham qui ont falsifié ce qu'il a reçu du Seigneur. Et leur falsification est courte, c'est exactement 2 phrases et demie. Et il dit simplement, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, c'est ainsi que tu seras précurseur de son retour. Mais l'orientation biblique et ce que Frère Branham a dit a été dit à Frère Branham. Et ce qui a été dit à Frère Branham, vous pouvez encore le relire en allemand, pas toi, mais le message qui t'a été confié précédera le retour de Christ. Faisant référence au message qui lui a été confié. Mes frères et sœurs, ne pensez pas que je sois ici pour me présenter. Ça, je n'ai pas nécessaire. Je n'ai pas nécessaire à le faire. Je n'ai pas besoin de le faire. Je regarde à 70 ans en arrière, en juin. Ça va faire 70 ans que j'ai consacré ma vie dans la première mission, évangélisation, dans une tente après la guerre. J'ai consacré ma vie au Seigneur en 48. Et ensuite, on suivit toutes les autres années. En 1949, où pour la première fois, j'avais entendu parler de Frère Branham par un évangéliste américain, Andrew Davis Duplessis de l'Afrique du Sud, et Holt Herman et tous ces évangélistes. Mais ensuite a suivi une expérience l'une après l'autre. Et bien, mes frères et sœurs, je ne le dis pas à cause de moi, mais à chaque fois, quand le Seigneur m'a donné un ordre, à chaque fois, il m'a désigné en tant que son serviteur. Chaque fois. Que ce soit le 2 avril 62, que ce soit tous les autres fois, à chaque fois, le Seigneur m'a désigné en tant que son serviteur. Et si nous allons à Pierre, lui-même il se présente en tant que serviteur du Seigneur. Un Pierre, le premier chapitre, pourquoi? Parce que son ministère n'était pas seulement fait pour une assemblée locale, mais son ministère était pour toute l'Église, pour tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu. Ici, commençons avec Jacques. Jacques, le premier chapitre. Et premier verset. Jacques, serviteur de Dieu. Et du Seigneur Jésus-Christ. Et déjà, dans Romains, le premier chapitre, au premier verset, Paul, n'est-ce pas, s'est présenté, Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Pourquoi est-ce que nous sommes ici aujourd'hui? Pour annoncer une interprétation? Non. Mais pour annoncer le dessein du salut, le message du salut, l'évangile à tous les peuples, les langues et les nations. Et Paul va au verset 2 directement et il dit ici, Romains chapitre 1, verset 2, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Les apôtres, en tant que serviteurs de Jésus-Christ, sont repartis à ce que les prophètes, en tant que serviteurs de Dieu, au nom du Seigneur, avaient prêché. Les apôtres, serviteurs de Dieu, sont repartis aux paroles des prophètes. Et cela a été le devoir de Frère Branham de prendre l'Ancien et le Nouveau Testament, de le lier ensemble et de nous inclure et nous conduire dans tout le dessein du salut de notre Dieu pour montrer comment est-ce que cela avait été promis ici et comment est-ce que cela s'est accompli là. En commençant avec la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, jusqu'à Apocalypse, le chapitre 22. Frère Branham a parlé de tous les sujets bibliques de manière biblique. Et répétons cela encore. Ce qui concernait son mandat direct, cela ça a été entre Dieu et lui. Cela ne me concerne pas. Quand il parle de l'attente de mission et quand il parle de 1977 et s'il parle encore de ce qu'il va encore chevaucher ce chemin, ça, ça le concerne. Moi, j'ai qu'un devoir, c'est de prêcher la parole de Dieu et de ne pas entrer dans des citations qui concernaient Dieu et Frère Branham. Et nous sommes reconnaissants à cela. Vous savez, vous connaissez aussi mon expérience à Marseille. Alors que pour la première fois, on m'avait posé la question concernant les sept tonnerres et par des frères de l'Arménie qui étaient venus en France. Ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que signifient les sept tonnerres? J'ai dû dire, je ne sais pas. Je vous souhaite une bonne nuit. Mais le prochain matin, aussi certain que vous entendez ma voix ici audible de vos oreilles naturelles. De la même manière, mon serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4. Est-ce que vous devez vous dire quel absolu? Est-ce que je dois vous dire quel absolu à chaque fois est contenu dans les paroles du Seigneur? Aucun homme peut se l'imaginer. Quel absolu dans chaque chose que le Seigneur a prononcée. C'est infini. C'est un ordre de la bouche du Seigneur lui-même. Un ordre, un absolu direct. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, de ce que le Seigneur aussi a donné des ordres de cette manière. Il a dit de ne rien prêcher, de ne rien enseigner, si ce n'est que les apôtres et les prophètes l'ont déjà témoigné et que pour cette raison, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et encore pour le dire, c'était en décembre 1966, alors directement devant Frère Branham, il avait suivi cet ordre qui lui avait été donné 6 mois auparavant, qu'il doit aller en Arizona et que là-bas, la nuée surnaturelle apparaîtra et que cette expérience puissante aura lieu. Et quand je pense justement à ce que ce grand homme de Dieu qui vivait sur terre comme un apôtre, un prophète promis, un homme de Dieu. Il m'a dit, lui, à moi, frère Frank, est-ce que tu peux entreprendre un vol pour moi à Los Angeles et prêcher à ma place à Los Angeles? Que ce grand homme de Dieu demande à moi, un petit comme je suis, s'il te plaît, va à Ordeon, en Portland. Et là aussi, le prochain dimanche, je devais y être. Et il m'a dit, s'il te plaît, va aussi là-bas. Et il m'a même dit, si tu peux, ne va pas à Edmonton. Ne passe pas à Edmonton, mais passe aussi là-bas à Edmonton. Ce grand homme de Dieu, de tous les temps, me demande à moi ce que je dois faire. et me dit ce que je dois faire et me dit que je dois aussi attendre jusqu'à ce que le reste de la nourriture soit emmagasiné et que ensuite sa distribution aura lieu. Et quand nous pensons à ce qui lui a été dit et à ce qu'il a répété, le message sera précurseur ou bien alors précédera le retour de Christ. Que tous puissent l'entendre dans le monde entier. Dieu, le Seigneur, le 24 décembre 1966, ne s'est pas retiré, n'est pas allé se coucher. Il y a eu un commencement. 1965. Dieu a pris son message, son prophète, pardon, mais il nous a laissé le message d'une manière que, par sa grâce, nous pouvons le porter dans le monde entier en tant que le dernier témoignage de l'appel à sortir, de la préparation. Et s'il vous plaît, pensez tous à Hébreux, chapitre 9, le dernier verset. Le Seigneur revient pour la deuxième fois pour tous ceux qui l'attendent. Il reviendra sans péché pour tous ceux qui l'attendent. Là, c'est écrit dans Hébreux 9, verset 28, pour tous ceux qui l'attendent. Bien, frères et sœurs, il faut que ce soit une attente qui brûle dans notre cœur, que la révélation de Dieu puisse nous saisir dans le plus profond de notre cœur et que nous lisons. Et quand nous lisons que son épouse s'est préparée, alors nous sommes vraiment reconnaissants de ce que nous avons ces réunions de préparation, nous prenons part à ces réunions de préparation. Et nous avons vu aujourd'hui aussi, Dieu a un plan avec Israël, Dieu a un plan avec l'Église. Et comme frère Branham l'a dit clairement, à la fin du dernier âge des églises, le Seigneur appelle l'épouse à sortir de l'église. Et ce sera le troupeau des vainqueurs. Il appelle dans ce dernier âge l'épouse à sortir de l'église. Et c'est ainsi que c'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Tous ceux qui étaient déterminés à la vie éternelle furent croyants. Même moi aussi, je peux le dire. C'est ainsi que je peux dire. Tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse, qui sont déterminés à appartenir à l'Église épouse, entendront le dernier message, croiront la parole de Dieu et elle leur sera révélée et ils consacreront leur vie au Seigneur et l'ordre divin dans le domaine naturel et le domaine spirituel, ils le respecteront dans ça et sera valable pour eux. Et tous les autres, on peut les laisser faire ce qu'ils veulent, mais les âmes de l'épouse respecteront l'ordre de Dieu. Et comme Paul l'a écrit, tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle, qui étaient déterminés à la vie éternelle, crurent dans Actes apôtres 13, la même chose encore aujourd'hui. Actes apôtres 13, si tu es déterminé à la vie éternelle, comme c'est écrit dans Actes apôtres 13, verset 46, alors tu acceptes aujourd'hui ce que Dieu nous a à nous dire dans ce temps. Dans la foi, tu l'acceptes et tu le reçois révélé de la part de Dieu lui-même. Dans ce contexte, nous pouvons dire que le dessein du salut de notre Dieu nous a été révélé et nous pouvons, dans le monde entier, par la grâce de Dieu, prêcher le dernier message et que celui qui a les oreilles, il entendra ce que l'Esprit dit ou bien alors à dire à l'Église ou bien aux Églises. Et tous les autres continueront à marcher dans leur propre voie. Et bien, mes frères et sœurs, tous ceux qui maintenant croient se laisseront baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous, vous savez, dans la formule trinitaire, tout est fait. Tout est fait. mais rien de divin. Rien qui vient de Dieu, que ce soit transporter des lever des tables ou bien des dans toutes les loges, tous doivent répéter cette formule trinitaire et sont ensuite consacrés au diable. Mais Dieu ne nous a pas donné des titres, mais c'est dans son nom de la rédemption qui s'est révélé à nous. Ce n'est pas dans des titres qui s'est révélé. Il a dit, tu l'appelleras Yahshua. Moi, la forme hébreu originale me plaît parce que Yahvé veut dire déjà sauveur. Yahvé, dans l'Ancien Testament, là où nous disons Seigneur, c'est écrit dans le texte original Yahvé. Yahvé. Là où nous disons Dieu, c'est écrit dans le texte original Elohim. Elohim, Yahvé. Dans tout l'Ancien Testament, plus de 4000 fois. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, tu l'appelleras Yahshua. Choua veut dire sauveur. Sauver, sauver, choua, sauver. Donc Yahvé, sauveur. Yahshua. Son nom est Emmanuel. Dieu est avec nous. Et là aussi, c'est merveilleux. Une fois, il a dit, son nom sera Emmanuel. Pour que nous puissions savoir qui il est. C'est-à-dire Dieu manifesté dans la chair. Et ensuite, quand il s'agit du nom, il a dit son nom sera Yahshua. Nous nous disons Jésus, Jésus. C'est-à-dire, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Et sauvera. C'est simplement merveilleux. De ce que nous avons foulé le sol de la révélation et que nous avons la grâce de croire, comme le dit l'Écriture, et que nous pouvons donner cet appel sur toute la terre. Et tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle, tous ceux qui sont déterminés à être une partie de l'épouse, prêteront l'oreille maintenant à la voix de l'époux jusqu'à que nous atteignions la perfection, l'achèvement, et que l'esprit et l'épouse disent « Viens !» et que celui qui l'entende dise « Viens !» Et nous disons l'un à l'autre « Maranatha !»« Viens, viens, Seigneur Jésus !» Et je suis convaincu qu'il reviendra bientôt et nous attendons que cela ait lieu dans notre temps. Et nous remercions notre Dieu pour les réunions que nous avons ici, que nous pouvons avoir ici, pour le centre missionnaire, pour tout ce que Dieu nous a accordé. Pour un seul objectif, c'est que le dernier message atteigne les extrémités de la terre. Nous sommes aussi reconnaissants pour la technique, reconnaissants pour les traducteurs, reconnaissant de ce que Dieu a pris soin de tout. À lui seul, le seul vrai Dieu, le Dieu fidèle à lui soit l'honneur et la gloire dans toute éternité, dans le saint nom de Jésus. Amen. Levons-nous, chantons d'abord « crois seulement » et ensuite « tel que je suis ». Crois seulement, crois seulement. dès que je suis. Avant que nous prions ensemble, je me sens conduit encore à dire la chose suivante. En ce qui concerne les sept tonnerres, c'est ainsi que beaucoup de frères ont de grandes difficultés. Mais laissez-moi, devant Dieu, le Seigneur, vous dire la chose suivante. Le 28 février, 1963, alors que frère Branham était en Arizona, à cette montagne Sandberg, l'action, la nuée surnaturelle est descendue, mais avec une telle tempête, un tel tremblement de terre avec sept coups de détonation de tonnerre terrible que le prophète a entendu de ses propres oreilles. Et le 24 mars 1963, alors qu'il parlait du septième saut, il a pris le poing et sept fois, il a frappé sur le pult et il a dit, les sept tonnerres étaient si puissants, d'une manière que toute la région a été ébranlée comme par un tonnerre et par un tremblement de terre. Et il a rendu témoignage de cette détonation de tonnerre, d'une manière que même les bouts des arbres, les cimes des arbres ont été détachées et les rochers et les pierres ont roulé de la montagne. Moi, j'ai vu les cimes des arbres courbées encore. J'étais là-bas à la Sandberg, sur cette montagne, en tant que témoin. J'ai vu les pierres qui se sont détachées de la montagne de mes propres yeux en décembre 1968, j'ai vu de mes propres yeux cela. Bien, mes frères et sœurs, Dieu a conduit les choses ainsi, qu'il y ait des témoins, des gens qui voient et des gens qui entendent, et que nous puissions, avec autorité absolue, prêcher le message divin, ayant vu et entendu ces choses de nous-mêmes. Et bien, mes frères et sœurs, c'est le dernier message, le dernier appel. Tout de nouveau sera rétabli. Tout sera restauré et ramené dans l'état primitif, tel que le Seigneur l'a promis dans sa parole. Il l'a envoyé son serviteur avec le message et nous pouvons, depuis le retour à la maison de frère Branham, prêcher ce message dans le monde entier et rendre témoignage de ce que Dieu dans notre temps a fait. Nous disons encore une fois, Maranatha, viens bientôt, Seigneur Jésus, pendant que nous courbons les têtes et que nous nous recueillons. Bien, mes frères et sœurs, acceptez la parole du Seigneur dans la foi et elle vous sera alors révélé. Il n'y aura plus de questions qui restera sans réponse aussi pour votre vie et vos expériences personnelles. Que toutes les décisions soient selon la parole de Dieu toutes les décisions que nous prenons pour que le bon plaisir de Dieu se repose sur nous par sa grâce. Ne regardez pas à vous, ou bien alors aux autres, ou bien aux circonstances, mais regardez au Seigneur qui a donné la promesse telle que nous l'avons lue. Il fera triompher son œuvre, sa justice, dans le troupeau des vainqueurs. Et je le répète encore une fois, nous qui sommes ici aujourd'hui et qui dans le monde entier sont connectés et qui écouteront, que ce soit à Edmonton, au Canada, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Australie, ou bien en Afrique, en Asie, partout que ce soit, tous ceux qui maintenant croient et qui acceptent le message divin peuvent, avec la certitude, venir avec assurance devant le trône de la grâce. Et tout ce que Dieu, par la rédemption, nous a accordé, ils peuvent le revendiquer pour eux en tant qu'une expérience avec Dieu, du salut, la conversion, la délivrance, la rédemption, le pardon, la réconciliation, la révélation de Jésus-Christ. Vous pouvez revendiquer tout pour vous et expérimenter tout. Bien, frères et sœurs, que personne repart encore chargé d'ici. Comme notre Seigneur l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Encore aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à nous tous. Venez à moi, vous tous. Et nous pouvons maintenant venir dans la prière et la foi à lui. Qui veut être inclus dans cette prière? Qui veut être inclus dans cette prière? Levez rapidement les mains, oui. Oui. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout notre cœur et de toute notre âme, nous te remercions aussi pour ce jour que tu as fait. Et nous te remercions de ce qu'aujourd'hui tu es le même. Et ce que nous avons lu dans la première introduction dans Actes chapitre 4 peut ici aujourd'hui avoir lieu. Ô bien-aimé Seigneur, que nous puissions tous être si enthousiasmés, si touchés et saisis par l'Esprit de Dieu, d'une manière que des larmes de reconnaissance coulent et des paroles de reconnaissance sont exprimées de nos lèvres. Ô Seigneur, notre Dieu, tu connais les difficultés qui existent, les requêtes, les problèmes avec les adolescents, dans les familles, les enfants, au travail, dans la société, partout ou dans quel domaine cela pourrait être. Bien-aimé Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Nous croyons ta parole. Tu vas faire toutes choses bien. Tu as déjà fait toutes choses bien. Et lors de ton retour, tu auras un peuple, tu retrouveras un champ de blé sain, pur, sans ivraie, nettoyé, propre, sanctifié dans la parole de la vérité, un lavé dans le bain de la parole et lavé dans le sang de l'agneau. Ô bien-aimé Seigneur, je te remercie de ce que chaque semence produit selon son espèce. Et je te remercie de ce que ta sainte parole est la semence que nous avons semée. Et je te remercie pour l'Ancien et le Nouveau Testament, pour tes serviteurs les prophètes, pour tes serviteurs les apôtres, pour ton serviteur William Branham, qui toujours de nouveau s'est référé à Amos 3. Que tu ne fais rien, Seigneur, si ce n'est que tu révèles premièrement tes secrets à tes serviteurs, les prophètes. Tu as envoyé ton serviteur, le prophète. Tu lui as révélé le mystère de Dieu et tous les mystères du royaume de Dieu. Bien, frères et sœurs, si vous le croyez, dites Amen. 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 Nous le disons pas seulement, c'est une réalité, c'est une réalité. Chaque parole de Dieu qui est prêchée et enseignée nous a été révélée, comme à notre bien-aimé Seigneur dans Luc chapitre 24, comme il a lui-même, n'est-ce pas, résumé tout et ouvert l'intelligence des disciples pour l'accomplissement de ces écritures dans leur époque, pour qu'ils puissent voir tout dans son accomplissement. C'est ainsi aussi que nous voyons maintenant tout dans son accomplissement, avec les nations, dans la politique, dans l'économie. Nous le voyons au Proche-Orient, nous le voyons partout, et particulièrement avec Israël, et particulièrement, oui, très particulièrement, avec l'appel à sortir de l'Église épouse, de tous les peuples, les langues et les nations. Bien-aimé Seigneur, nous ne nous heurtons à aucune parole de Dieu. Nous acceptons au contraire chaque parole dans la foi. Et nous te demandons de produire toutes ces choses en nous, de produire la foi et l'obéissance en nous, pour que, en tant que des enfants de Dieu obéissants, nous puissions atteindre le but, tel que tu étais obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est ainsi que tu nous accordes aussi la même obéissance au Seigneur par ta grâce, que nous puissions de tout notre cœur être prêts à faire ta volonté. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta parole, pour ce que tu as exaucé nos prières, et que ta bénédiction dans le monde entier, dans tous les peuples, les langues et les nations, soit manifestée. Et je te demande encore une fois, dans ton merveilleux nom de Jésus, que tous les frères qui sont déterminés à prêcher la parole et à distribuer la nourriture divine, qu'ils ne prêchent pas ne parlent pas de songes et d'imagination, et qu'ils ne prêchent pas leurs pensées, mais que par la révélation de ton esprit, ils reçoivent ta parole et qu'ils puissent ensuite transmettre ce qu'ils ont reçu de ton esprit. Ô bien-aimé Seigneur, bénis tous les frères dans le monde entier et les sœurs, et particulièrement, nous prions particulièrement pour l'Italie, Fais grâce et bénis tous nos frères en Italie. Car dans le Nouveau Testament, nous avons l'Italie qui est mentionnée, l'Allemagne n'est pas mentionnée, l'Angleterre n'est pas mentionnée, la France n'est pas mentionnée, mais l'Italie est mentionnée dans la Bible. Et Paul pouvait dire même après Rome, il ira en Espagne. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés Seigneur, nous te demandons particulièrement de bénir tous les frères en Italie, de bénir tous les frères. Bénis le frère Gerlando, bénis le frère Foresteri, bénis le frère Etienne Genton, bénis le frère David. Oui, bénis tous les frères qui prêchent la parole, et bénis tous de l'Afrique, de l'Asie, du monde entier. Bénis de la plénitude de ta grâce. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci de tout notre cœur pour tout, dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Amen.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui. Maintenant, nous avons encore à dire, pensez à moi particulièrement. Demain commence probablement le dernier voyage en Israël. Et que le Seigneur puisse accorder sa grâce. Il y aura au moins presque 300 personnes qui viendront de l'Afrique, de l'Europe et du monde entier. 300 personnes presque. Et que Dieu puisse vraiment vous bénir ici et aussi nous bénir là-bas. Encore une remarque. Le temps est passé, mais encore une remarque. Alors que le frère Michael me disait que au Pakistan, la décision a été prise et jusqu'à dans le gouvernement qu'en octobre, le stade pour 100 000 personnes doit être loué. 100 000 personnes. Et que particulièrement, il y aura des réunions très particulières qui sont planifiées. J'ai simplement dit, je ne sais pas comment est-ce que je peux encore marcher et même me tenir debout. 1962, j'avais 29 ans. Maintenant, j'ai 84 ans. Le temps ne s'est pas arrêté. Mais je remercie Dieu. Je peux vous dire que je suis en bonne santé, entièrement en bonne santé. Je n'ai aucune douleur. Je ne connais pas la douleur. Je ne prends aucun médicament. Aucune. Une fois par an, je vais me faire examiner, prendre mon sang, etc., tout ce qui appartient aux choses. Et à chaque fois, le médecin regarde et touche quelques boutons et me dit, mais tous vos résultats ne pourraient pas être mieux que ça. Et de ce que je suis un peu faible dans le corps, bon, dans les faibles, le Seigneur est fort. Loué et exalté soit son merveilleux nom et saint nom. Amen. Que tous ceux qui vont en Israël, s'il vous plaît, restez après la dernière prière ici et venez tous devant. Tu veux dire encore quelques mots, frère? Mais qu'est-ce plus de prédication, mais quelques mots. Nous sommes reconnaissants au Seigneur, bien frères et sœurs. Quelle grâce nous a été adressée. Oui, directement de vivre dans ce temps et de prendre part à l'action du Saint-Esprit, à la vraie prédication de la parole. Oui, et nous souhaitons à tous qui vont en Israël les riches bénédictions de Dieu. Oui, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse Israël et accorde beaucoup de paix et accorde à notre frère particulièrement beaucoup de force. Pensez aussi à moi. J'ai un voyage en Amérique du Sud. Et là-bas aussi, je vais rencontrer beaucoup de prédicateurs. Que Dieu puisse accorder sa grâce. Et aussi là-bas, vraiment secourir tous. Que nous puissions vraiment être dans l'union, servir le Seigneur. Et que l'œuvre de Dieu puisse vraiment dans le monde entier, que l'œuvre puisse devenir une union, une unité, comme l'avons entendu aujourd'hui dans les Actes des Apôtres. Ils étaient qu'un seul cœur et une seule âme. Tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont vraiment cru étaient qu'un seul cœur. Que ce soit ainsi en Italie, en Roumanie, partout, qu'en Afrique, partout, en Amérique du Sud, partout, que tous ceux qui ont cru soient un seul cœur et une seule âme. Particulièrement, tous ceux qui prêchent la parole dans sa forme originale. Nous avons entendu du serviteur du Seigneur et nous savons aussi que ceux qui sont, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 6, ils sont aussi responsables, n'est-ce pas, de transmettre ce qu'ils ont reçu, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous a bénis et il ne nous reste plus qu'une chose à faire que de remercier le Seigneur de tout notre cœur. Il est parlé aussi Et nous remercions le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Père céleste au ciel, notre cœur reconnaissant. Oui, comme la Bible parle de courts serviteurs et qu'ils ont aussi la responsabilité de transmettre ce qu'ils ont reçu. Nous te remercions, nous en tant que serviteurs de Dieu. Toi, en tant que serviteur de Dieu, dans un corps de chair, en notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus grand que ça, Seigneur? Que de prendre tout sur toi et de nous couronner de grâce et de miséricorde. Tu t'es personnellement révélé à nous et tu nous as fait sortir de toute la confusion babylonienne et religieuse, de toute l'erreur, et tu nous as ramené sur le chemin du salut où ta lumière brille pour nous. Cette parole merveilleuse révélée pour ce temps, tu as envoyé ton serviteur, le prophète, et tu nous as accordé ce message merveilleux de préparation. Et ce message atteint les extrémités de la terre. Et tous ceux qui entendent et croient seront préparés pour le jour glorieux de ton retour. Seigneur, nous ne pouvons que dire, viens bientôt, Seigneur Jésus. Maranatha, loué et exalté soit ton merveilleux nom. Bénis notre bien-aimé frère. Accorde de nouvelles forces et de nouveaux courage aussi pour ce qui est planifié à la fin de l'année. Que tu puisses frayer le chemin pour que tous puissent encore entendre ce que tu as préparé pour nous. Et que les derniers soient sauvés. Et entre, et que la totalité de la nation entre. Bénis tous tes enfants dans le monde entier. Nous te remercions. Tu nous as bénis. Et nous et loué soit le nom du Seigneur, dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Aussi à toi, bien-aimé frère, nous te souhaitons les riches bénédictions de Dieu. Que le Seigneur soit avec toi. Prends des salutations avec toi à tous nos frères et à toutes nos sœurs. J'ai encore une demande à tous les frères dans le ministère. Est-ce que vous voulez venir devant pour qu'on puisse aujourd'hui ici ensemble prier? Aujourd'hui, nous n'allons pas appeler les jeunes, mais appeler les frères que le Seigneur a déterminés à prêcher, à transmettre sa parole. Oui, que tous les frères qui participent à cette œuvre, à transmettre la parole du Seigneur, à distribuer la nourriture. Venez s'il vous plaît, devant. Nous allons ensemble prier. Oui, venez tous, aussi le frère Macha, le frère Etienne Genton, venez, le frère Forestieri, le frère John Arnaud, venez tous. Le frère, le temps est là. D'abord, il faut que les ministères soient un seul cœur et une seule âme et puissent se respecter et que dans aucun endroit on puisse fonder de nouvelles églises. Mais dans l'église dans laquelle vous êtes, laissez tous à l'église locale. Ne vous sentez pas appelés à créer de l'ordre dans d'autres églises. Mettez de l'ordre dans votre église et dans votre église locale et laissez tous les autres frères mettre de l'ordre dans leurs églises. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a dit, mon serviteur ne fonde aucune église locale? Si vous avez été appelé à transmettre la parole et à, n'est-ce pas, venir dans une autre ville et servir le Seigneur dans votre église, n'amener aucune division dans une ville, mais servir le Seigneur dans l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu. N'est-ce pas le frère Forestieri et le frère Chalando et tous les frères qui sont ici? Moi, c'est une requête de mon cœur. Le temps est proche. Le temps est proche. Oui, bien mes frères de l'Hollande, que Dieu te bénisse d'une manière particulière. Que Dieu bénisse tous nos frères aussi d'Atlanta. Et oui, d'où êtes-vous? D'où? Du Mozambique, de l'Angola, de l'Afrique, de partout, d'ici et de là. Dieu le Seigneur accorde sa grâce. Que ceci soit le jour que le Seigneur a fait. Toi aussi, bien-aimé frère, qui est ici devant, que Dieu te bénisse. J'oublie toujours les noms. Que Dieu vous bénisse tous. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous sommes ici aujourd'hui en tant que frères dans le ministère pour nous tenir nouvellement à ta disposition. Et nous te demandons que ta volonté par nous, par notre ministère, soit faite et que l'Église soit édifiée et participe à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et que tous puissent prêcher et parler, et avoir le même langage et les mêmes sentiments et prêcher la même parole. Et la même inspiration que l'onction, le vrai onction du Saint-Esprit, la vraie onction du Saint-Esprit, vienne sur nous tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, et que ceci soit le jour que le Seigneur a fait pour nous en tant que serviteurs dans le ministère, et pour tous les frères dans le ministère, sur toute la terre. Unis ensemble, comme c'est écrit dans le psaume 123, 133, se respecter les uns les autres, comme il est agréable que les frères habitent ensemble, comme c'est écrit, et nous tenir ensemble à la disposition du Seigneur. Seigneur, encore une fois, je te remercie de ce que tu appelles l'Église des nations et tu la ramènes dans ton conseil du salut et que toi-même, tu achèves ton œuvre dans l'Église des nations et que tu achèveras ton œuvre avec triomphe, comme nous l'avons lu, avec triomphe, alléluia, par la puissance du sang et de la parole et de l'esprit. Cela aura lieu dans le saint nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Maintenant, nous chantons dans toutes les langues. Je l'aime, je l'aime. Je l'aime. Que tous les frères qui sont devant, je voudrais leur donner. C'est...